Le journal du soir avec vous, Claire Vigée, bonsoir.
Bonsoir. Les crues du lac de Neuchâtel ont aussi impacté les chalets de la Grande Carissée. L'État de Vaud souhaite les détruire, mais il ne devrait pas pouvoir saisir cette catastrophe pour accélérer le processus. Le coup d'envoi cette semaine des cours de français dans les parcs. Les jeunes rives à Neuchâtel et le bois du Petit Château à La Chaux-de-Fonds accueillent les allophones avec 15 jours de retard à cause de la météo. Xamax n'entamera pas officiellement sa saison demain. Les crues du lac de Neuchâtel auront eu raison de sa première journée de championnat, mais les Rouges et Noirs se déplaceront à Chafouze pour une rencontre amicale d'échauffement. Et puis après une soirée calme et une nuit claire, Météo News annonce un temps estival pour demain. Le mercure oscillera au meilleur de la journée entre 27 et 29 degrés. On peut à nouveau se baigner dans le lac de Neuchâtel. Une analyse microbiologique n'a mis en évidence aucune pollution notoire de l'eau. Les autorités préconisent cependant encore une grande prudence. Elles demandent de respecter les éventuelles consignes et restrictions des communes. En revanche, la navigation reste interdite sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, ainsi que sur le canal de la Broye. Les chalets de la Grande Carissée au sud du lac de Neuchâtel ont aussi souffert des crues. Même si l'État de Vaud veut les détruire, ils devraient être remis en état. Malgré la procédure en cours, les locataires continuent de payer leur assurance et une redevance au canton qui fait office de loyer, ce qui signifie que les locataires ont aussi des droits, dont celui de remettre en état leur chalet. Des rénovations sont en revanche exclues. L'État de Vaud ne pourrait-il pas profiter de ces crues et des dégâts causés au chalet pour accélérer le processus? Question posée au Neuchâtelois Julien Spaccio, président de l'association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel.
Mais ils ne peuvent pas le faire, hein, puisque les procédures sont en cours. Donc j'espère que dans un état de droit, même si c'est le Conseil d'État, encore une fois, le Conseil d'État vaudois, parce que le Grand Conseil a voté le maintien des chalets, ce qui est assez qui est cocasse, hein, parce que l'autorité suprême, c'est quand même le Grand Conseil avant le Conseil d'État. Je veux dire que ce serait quand même assez grave si dans un état de droit, en fait, on saisit une catastrophe pareille pour, disons, faire détruire quelque chose, alors qu'une procédure judiciaire est en cours auprès des tribunaux, en fait, des bouts du canton de Vaud. Donc je crois que, là, encore une fois, il y a un litige, certes. Nous, on conteste en fait la résiliation des baux, on conteste même le fait que ce soit du droit privé, je pense que c'est plutôt du droit public en fait cette affaire, mais ce serait, il y a quand même, ils doivent respecter la législation, le droit et les tribunaux. Je pense que c'est pas parce que c'est le Conseil d'État qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc là, évidemment, à mon sens, il est exclu et il est impensable en fait qu'on saisisse, disons, une catastrophe pareille pour se débarrasser de nous.
Julien Spaccio au téléphone de Sarah Massy. Les dégâts à l'intérieur des chalets sont moindres, ceci étant en grande majorité construit sur pilotis. 4704 signatures très exactement, c'est le nombre de paraphes déposées aujourd'hui à la chancellerie d'État. Elles accompagnent ces signatures le référendum contre le projet de contournement routier est de La Chaux-de-Fonds. Après deux semaines d'annulation en raison du mauvais temps, les cours de français dans les parcs ont débuté ce mardi dans le canton de Neuchâtel. Trois fois par semaine jusqu'à la fin des vacances d'été, les allophones sont conviés aux jeunes rives dans la capitale cantonale et au bois du Petit Château à La Chaux-de-Fonds pour se familiariser avec la langue de Molière. Adriana Ayoset fait partie des formatrices.
Je ne pense pas que le but soit que ces gens apprennent le français. Le but, c'est qu'ils puissent, et souvent elles puissent, s'ouvrir à cette idée de la possibilité d'apprendre le français. Et après, on les aiguille sur d'autres lieux plus cadrés et où elles vont vraiment apprendre. Et on fait presque tous les vendredis une visite d'une école de langue dans le canton. Et c'est ça l'idée, c'est de leur dire, vous voyez comme c'est chouette, et c'est là où vous pouvez aller. Mais ce n'est pas en cinq semaines avec nous qu'ils vont apprendre le français.
Ces cours sont gratuits, ils sont organisés par l'œuvre suisse d'entraide ouvrière en coopération avec les villes concernées et le service de la cohésion multiculturelle. Vous trouverez plus de détails sur rtn.ch. Bienne prépare ses cavaliers, ses tours et ses fous. Le 54e Festival international d'échecs de la cité ceylandaise débute le 24 juillet. C'est le Palais des Congrès qui accueille la manifestation jusqu'au 4 août. Avant le lancement des hostilités, les organisateurs ont fait en début de semaine un dernier point. Au programme cette année, un tournoi des grands maîtres sous forme de triathlon, un tournoi des maîtres et différentes parties amateurs, le tout en présentiel. C'était donc un sacré coup de poker à jouer pour le directeur général de l'événement, Paul Coller.
Malheureusement, comme l'année passée, le principe c'est qu'il n'y a pas de spectateurs. On est sous le mode des 250 personnes maximales. Événement sans certificat, mais du coup avec nécessité de traçage. Donc moi, je contrôle qu'on dépasse jamais les 250 en fournissant un badge à toute personne qui pénètre au Palais des Congrès. Donc évidemment, d'abord les joueurs, le staff, les accompagnants des juniors, les journalistes. Et si j'ai du rab, je peux voir si je peux laisser entrer exceptionnellement une deux personnes. Elle me donne le jour et quel temps elle vient. On peut s'organiser comme ça, mais le principe de base, c'est les spectateurs ne peuvent pas entrer. Et de toute façon, on ne rentre pas sans badge.
Avec cette possibilité quand même de suivre les matchs, la compétition à distance, ce dispositif, il ressemblera à quoi ?
Le tournoi des grands maîtres, comme à son habitude, il sera en direct et commenté sur notre chaîne YouTube. Mais du coup, là, on a investi, ça sera toutes les parties du tournoi des maîtres qui seront visibles sur Internet, ainsi que les meilleures parties des amateurs.
Paul Collère qui répondait à Vincent Jacquat. Plusieurs pointures sont attendues à Bienne pour ce festival, notamment le champion de France 2019, Maxime Lagarde, et l'ancien vice-champion du monde, l'Américain Gatine Kamskaye. La vaccination du personnel de santé doit être encouragée, mais pas forcée. C'est l'avis exprimé par l'Association suisse des infirmières et infirmiers aujourd'hui dans un communiqué. L'ASI soutient la campagne nationale et encourage tous les soignants à tendre le bras. Selon l'association, rendre la vaccination obligatoire sera contre-productif. Encore plus d'infirmières pourraient être poussées à quitter la profession. Les employeurs pourraient alors avoir des difficultés à trouver de nouveaux soignants et la qualité des soins en pâtirait, explique une responsable de l'association. Toujours au chapitre Covid, après les infections, c'est au tour des hospitalisations de prendre l'ascenseur en Suisse et au Liechtenstein. Elles ont plus que doublé en une semaine pour s'établir à 48. Le nombre de cas a lui progressé de plus de 80%. Au total, 3795 cas ont été enregistrés durant la semaine du 12 au 18 juillet, contre 2055 la semaine précédente et 1032 la semaine encore avant. C'est le groupe d'âge des 20-29 ans qui a été le plus touché en termes de cas déclarés. À l'inverse, les 70-79 ans sont les moins affectés. Et aujourd'hui, le FSP signale 861 cas supplémentaires en 24 heures, 7 décès et 14 hospitalisations. Un test public de sécurité mené sur le certificat Covid a révélé 136 failles réelles ou présumées, un nombre que la Confédération juge normal au vu de la complexité du projet. Le Centre national pour la cybersécurité a publié aujourd'hui sur son site un bilan du test en cours depuis fin mai. Plus de 50 000 des 250 000 voitures mises hors service chaque année en Suisse disparaissent des statistiques. Le conseiller national vert valaisan Christophe Clivas s'en préoccupe. Il demande au Conseil fédéral s'il s'agit d'exportation illégale. Christophe Clivas estime que cette pratique nuit à la filière du recyclage des véhicules usagés en Suisse.
C'est un article qui est paru dans la presse alémanique qui a un petit peu attiré mon attention. Parce qu'effectivement, dans les statistiques officielles, on se rend compte qu'il y a une différence entre finalement le nombre de voitures qui sont mises hors service et puis justement le nombre de voitures qui sont exportées officiellement. On est autour de 50 à 60 000 véhicules en fait qui disparaissent, si on veut des statistiques chaque année. Ça pose d'autres types de problèmes. Alors bien sûr, ces véhicules, ils vont avoir encore une durée de vie peut-être à l'étranger, ce qui peut être intéressant. Hein. Mais en même temps, où ces véhicules vont finir leur vie? Est-ce qu'il y aura vraiment à la fin une capacité de vraiment s'assurer que ça ne vienne pas des déchets qui sont abandonnés finalement en plein air. Il y a un enjeu évidemment pour la filière du recyclage en Suisse qui est efficace, qui fonctionne bien. Mais évidemment, en faisant disparaître entre guillemets, des véhicules comme ça, les matières premières qui permettent à cette filière d'exister, elles ne sont plus là. Et puis c'est vrai qu'elle est soumise à une certaine pression en termes de rentabilité du fait de la disparition en fait, de cette matière première.
Et pour promouvoir le recyclage des véhicules usagés en Suisse, Christophe Cliva préconise l'instauration d'une taxe d'élimination à l'achat des voitures. À l'étranger, Israël et la Hongrie ouvrent une enquête parlementaire sur le logiciel d'espionnage Pegasus. Selon certains médias, ce programme aurait été utilisé à mauvais escient par certains États, dont la Hongrie, pour espionner des personnalités. Ce logiciel Pegasus, conçu par la société israélienne de cybersécurité NSO, est au cœur d'un scandale mondial d'espionnage qui a poussé l'ONG Reporters sans frontières a réclamé un moratoire sur ses ventes.
18h10 sur RTN et pour être totalement complet, on passe au sport.
Xamax est dans les starting blocks. Le club de football neuchâtelois a terminé sa période de préparation sur les chapeaux de roue. Après leur large victoire contre Zurich samedi, les Rouges et Noirs étaient prêts pour entamer le championnat de Challenge League demain à la Maladière contre Arau. Mais le match a été repoussé en raison des crues du lac de Neuchâtel. Les joueurs de Xamax devront donc encore ronger leurs freins. Leur entraîneur, Andrea Binotto.
Oh, c'est une petite déception, parce que c'est vrai que lorsque vous partez dans une préparation, vous vous planifiez, voilà, c'est 6 semaines, et tout le monde attend le premier match avec envie, avec détermination. Et puis lorsque vous êtes à quelques jours, finalement, d'arriver à cette petite récompense, parce qu'un match de championnat, c'est une petite récompense suite à une préparation, le fait de repousser d'une semaine, ça... Il y a une petite déception au départ, mais heureusement qu'on a trouvé un match de préparation supplémentaire. Nous allons demain à Chafouz contre un adversaire de qualité. En plus, sur un terrain qui sera notre premier terrain de match championnat, puisqu'on jouera Vaduz à Chafouz même. Donc voilà, encore des éléments importants qu'on pourra mettre dans notre bagage pour affronter au mieux ce premier match contre Vaduz.
Andrea Binotto répondait à David Sanchez. Et puis ce changement de hiérarchie à Neuchâtel-Xamax. Laurent Valterte cède son brassard à Mike Gomez. Le défenseur hérite des responsabilités de capitaine.
C'est tout d'abord une grande fierté. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Maintenant, voilà, c'est un nouveau défi pour moi. Je n'ai jamais vraiment connu ça dans ma carrière. Donc je vais tout faire pour faire ce qu'il faut pour être un bon capitaine à Neuchâtel-Xamax.
Est-ce que c'est un brassard lourd à porter?
Je crois qu'il a été très bien porté jusqu'à présent, donc je vais essayer de m'inspirer un petit peu de ça. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Il y a plusieurs leaders dans ce vestiaire, et puis je crois que chacun sait faire ce qu'il doit faire. Donc,
Voilà, Neuchâtel-Xamax ne restera donc pas les bras croisés demain. Les Rouges et Noirs se déplaceront à Chafouz pour affronter l'équipe locale en match amical. Coup d'envoi à 14h30. Mundjinga Kambudji et Max Heinzer sont les deux porte-drapeaux de la Suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. L'athlète bernoise et l'épéiste balois mèneront la délégation helvétique dans le stade olympique quasiment vide. Le chef de mission, Ralf Stöckli, a fait part du choix du Suisse Olympique de Suisse Olympique aujourd'hui. Il a profité de l'opportunité offerte pour la première fois par le CIO de sélectionner deux sportifs pour souligner les efforts en matière d'égalité des sexes. Ralf Stöckli nous explique son choix.
C'est toujours un choix pas assez facile. Quand même, on a plusieurs ambassadeurs et ambassadrices dans les sports d'élite en Suisse. Comme le choix, Mundjinga Kambudji est le visage de nouvelles générations en athlétisme. Extrêmement sympa, une fascination. Elle monte pendant les compétitions et, à mon avis, un modèle pour les jeunes athlètes en Suisse. Max Heinzer, il représente des petits sports. C'est vraiment le stage olympique qui arrive d'être encore plus important. Il travaille très, très dur dans le détail. Les troisième fois, il représente la Suisse pendant les Jeux olympiques. Et je suis sûr qu'il a la possibilité, pas seulement dans le sport individuel, mais aussi par équipe dans l'escrime. Il a monté plusieurs fois. Il est un des meilleurs athlètes en escrime.
Et Mundjinga Kambudji a changé ses plans pour arriver un jour plus tôt à Tokyo. Être porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture est un honneur pour la sprinteuse de 29 ans qui dispute ses troisièmes JO.
J'ai reçu un mail. J'étais chez mes parents dans le jardin. Puis j'étais étonnée parce que c'est quelque chose, j'ai même pas réfléchi à ça, j'ai pas pensé qui ça va être, est-ce que ça pourrait être moi, c'est quelque chose qui était pas trop quelque chose que j'avais pensé. Et puis après j'étais vraiment très étonnée, mais positif, et puis je me suis vraiment réjouie, et puis j'ai direct dit oui que je voulais faire, mais c'est vraiment, moi c'est un grand honneur.
Un dossier de notre envoyé spécial à Tokyo, Émilie Mumenthaler. Et parmi les quelques 1000 officiels autorisés à assister à la cérémonie d'ouverture, il y aura le président de la Confédération, Guy Parmelin, qui rencontrera notamment demain l'empereur Naruhito.
Merci beaucoup Claire, et les informations reviendront évidemment avec la matinale de demain matin dès 6h. Un petit coup d'œil à la météo. Après une belle journée, les experts de Météo News nous signalent quelques rares averses possibles sur les crêtes du Jura en cette fin de journée. Sinon, soirée calme et propice à toute activité en extérieur. Non, vous inquiétez pas, la pluie ne devrait pas trop venir nous voir avant samedi, si tout va bien. Car la journée de demain devrait être le pic estival de cette semaine, avec des températures encore en hausse. Si demain matin nous serons entre 11 et 14 degrés à l'aube, on passera vite à la vitesse supérieure l'après-midi. samedi, avec 27 degrés attendus au Locle et à la Chaux-de-Fonds, 29 à Neuchâtel et Payerne, ou encore 30 pour Yverdon-les-Bains. Et puis, dès samedi, ça va se gâter, avec des passages nuageux denses déjà en début de matinée, suivi d'un intermède relativement bien ensoleillé et chaud jusqu'au début ou au milieu d'après-midi. Et ensuite, le ciel sera plus menaçant, avec des orages d'abord dans le Jura, puis en toute région, orages parfois violents et pouvant s'accompagner de grêles, notamment en Ajoie.